Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés. Qui croient et qui restent pieux, il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 31 décembre 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Ni une pause, ni un arrêt temporaire, mais mettez fin au combat, déclaration de l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les opérations des brigades Al-Qassam au 85e jour de la guerre contre Israël. Yémen, l'UKM2 reçoit un rapport sur un incident de navire près du port de Hudaïda. Et puis, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a considéré les allégations des pays occidentaux contre la République islamique d'Iran comme dénuées de toute valeur juridique et morale et a exigé que certains pays occidentaux mettent fin à l'utilisation instrumentale du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Au 85e jour de la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza, Saraya Al-Rouz, la branche militaire du mouvement djihad islamique palestinien, a annoncé dans un communiqué avoir pris pour cible, par une salve de roquettes, les colonies israéliennes de Mafal Sim et Niran, à proximité de la bande de Gaza. Saraya Al-Rouz a également indiqué dans un autre communiqué que ses combattants avaient ciblé deux chars et un véhicule blindé de transport de troupes de l'armée israélienne avec des RPG et des obus tandem sur les axes Al-Tufa et Al-Daraj dans la ville de Gaza. Pendant ce temps, la résistance palestinienne est engagée dans de violents affrontements avec les forces d'occupation israéliennes dans la région de Khan Younes et ses environs au sud et au centre de la bande de Gaza. Dans la partie centrale de la bande de Gaza, la résistance palestinienne a livré de violents affrontements avec les forces d'invasion israéliennes ce samedi 30 décembre, notamment près de la mosquée Abu Meidan, située au sud-est du camp de réfugiés d'Al-Boreij. Les violents affrontements dans la zone située à l'est de Boreij ont contraint les forces d'occupation à battre en retraite, selon Al-Mayadin. Le CENTCOM affirme que des destroyers américains ont répondu à une demande d'assistance de Maersk Hangzhou, qui a signalé avoir été touché par un missile alors qu'il traversait la mer Rouge. L'Organisation des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni, UKMTO, a déclaré samedi avoir reçu un rapport détaillant un incident survenu dans la mer Rouge à environ 55 000 marins au sud-ouest du port yéménite d'Hudaïda, a rapporté la chaîne Al-Mayadin. Selon la note d'information émise par Luca Imto, le capitaine du navire non identifié a signalé une forte détonation accompagnée d'un éclair sur la proue bâbord du navire et plusieurs explosions dans les environs. Aucun dommage n'a été signalé à la suite de l'opération et il a été confirmé que tous les membres de l'équipage étaient sains et saufs. Pendant ce temps, l'armée américaine a affirmé qu'un destroyer américain avait abattu samedi deux missiles balistiques anti-navires qui auraient été tirés depuis le Yémen. Les évolutions interviennent dans un contexte d'augmentation des attaques contre les navires israéliens et à destination d'Israël dans la mer Rouge. Le mouvement yéménitain Sarala a déclaré que ces actes constituaient une forme de protestation contre la guerre israélienne à Gaza et son blocus. Sachez également que des Parisiens manifestent en soutien à la Palestine, arborant des drapeaux palestiniens. Des manifestants ont porté également des pancartes appelant à la fin du génocide à Gaza. Paris a été le théâtre d'une importante manifestation pro-palestinienne avec des manifestants rassemblés sous les bannières « Nous sommes tous des Palestiniens et Gaza génocide ». Des centaines de personnes ont exprimé leur soutien au peuple palestinien samedi à Paris lors d'une manifestation dans le cœur de la capitale française, également dans d'autres grandes villes françaises. De nombreuses villes et capitales mondiales ont été hier témoins de manifestations massives dénonçant l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Des milliers de personnes ont participé aux manifestations organisées dans plusieurs capitales. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a considéré les allégations des pays occidentaux contre la République islamique d'Iran comme dénuées de toute valeur juridique et morale et a exigé que certains pays occidentaux mettent fin à l'utilisation instrumentale du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Lors d'une réunion pour discuter des développements internationaux en matière des droits de l'homme, ce dimanche, au ministère iranien des Affaires étrangères, Hossein Mozaffar, chef d'un comité spécial chargé par le président iranien, a qualifié la vision de la République islamique d'Iran sur la question des droits de l'homme de vision fondée sur l'honnêteté et la dignité, qui s'efforce de promouvoir les droits de l'homme et la dignité humaine de ses citoyens. Faisant référence au génocide en cours à Gaza et à la violation flagrante et continue des droits des Palestiniens au cours des 8 dernières décennies, ainsi qu'au soutien plein des États-Unis et de l'Occident à l'occupation et à l'apartheid du régime sioniste, le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian a déclaré « Les mécanismes imposés par les institutions des droits de l'homme contre la République islamique d'Iran sous l'influence et la pression de quelques pays occidentaux n'ont aucune justification juridique » ni légitime. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Ehud Olmert. Pas une pause, ni un arrêt temporaire, mais mettez fin au combat. Dans une opinion publiée dans le journal israélien Haaretz, l'ancien premier ministre du régime israélien Ehud Olmert a déclaré que le premier ministre actuel du régime sioniste Benjamin Netanyahou était conscient dès le début de la guerre en cours dans la bande de Gaza qu'il était dans l'impossibilité de réaliser ses promesses faites aux Israéliens. Ehud Olmert a souligné qu'il serait impossible pour Israël d'anéantir le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, et que le régime israélien aura des jours difficiles devant lui. Dans une partie de son article, l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert a écrit « Les chances de parvenir à élimination complète du Hamas étaient nulles À partir du moment où le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il était l'objectif principal de la guerre. Même alors, il était clair pour quiconque y réfléchissait que la destruction complète du Hamas n'était qu'un vœu pieux, militairement irréalisable, même dans des conditions différentes de celles qui existent dans la bande de Gaza. Ensuite, Ehud Olmert a ajouté que les services de renseignement du régime sioniste, dont le gouvernement israélien disposait avant le 7 octobre, étaient suffisants pour permettre aux dirigeants israéliens de comprendre qu'un réseau sophistiqué de tunnels appartenant à la résistance palestinienne était réparti dans presque toute la bande de Gaza. Mais Ehud Olmert estime que les moyens des renseignements israéliens dans ce domaine sont très limités. L'ancien premier ministre israélien a ajouté que le régime sioniste avait beaucoup souffert de ces tunnels d'attaque des combattants de la résistance palestinienne lors de la guerre que le régime sioniste avait imposée à la bande de Gaza en 2014. Selon Olmert, cela suffisait pour savoir que le réseau de tunnels appartenant aux factions de la résistance palestinienne basées dans la bande de Gaza empêcherait une opération militaire rapide et décisive de l'armée du régime sioniste dans cette enclave palestinienne. Selon Olmert, ce réseau de tunnels pourrait même permettre aux factions de la résistance palestinienne de poursuivre leurs activités militaires contre l'armée du régime sioniste dans des conditions difficiles. Le Hamas ne peut pas être facilement vaincu, a encore estimé l'ancien premier ministre du régime sioniste. Dans son article, publié dans le journal israélien Haaretz, Ehud Olmert a ajouté « Bien entendu, Netanyahou savait dès le départ que sa rhétorique était sans fondement et qu'elle finirait par s'effondrer face à une réalité militaire et humanitaire » qui obligerait Israël à atteindre le point final de la campagne actuelle. Ce moment est désormais arrivé. La défaite du Hamas est loin. Nous n'avons même pas atteint le point qui puisse nous permettre de contrôler le calendrier de la guerre qui a débuté le 7 octobre. Les meilleurs soldats et troupes de réserve d'Israël continuent à se battre, mais nous devons nous attendre à des jours difficiles, a-t-il dit. Ehud Olmert a ensuite évoqué le nombre croissant de soldats israéliens tombés au combat dans la bande de Gaza. Il a ajouté aussi que la diffusion des scènes douloureuses de mort, de destruction et de désolation subies par les habitants palestiniens de la bande de Gaza jette une lourde ombre sur le régime d'Israël auprès de l'opinion publique, régionale et internationale et sape considérablement le soutien et la patience dont font preuve même les pays les plus amis d'Israël. L'ancien premier ministre du régime sioniste a écrit « Que devrions-nous faire ? Je crois que le moment est venu pour Israël d'exprimer sa volonté de mettre fin au combat. Vie, mettez fin au combat. Pas une pause ni un arrêt temporaire de 2, 3 ou 4 jours. La fin de l'hostilité, point final. À ce moment-là, Israël devra ramener les otages, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Si nous continuons encore à attendre, il n'y aura plus de captifs vivants, averti. La cessation des hostilités doit être conditionnée à la libération de tous les otages, jusqu'au dernier d'entre eux. En échange, Israël n'aura d'autre choix que de libérer tous les prisonniers du Hamas qu'il détient. » Ehud Olmert a souligné que le premier ministre du régime sioniste, Benjamin Netanyahou, devrait accepter que les objectifs de la guerre israélienne contre Gaza, visant à éliminer le groupe du Hamas, ne seront pas et ne pourront pas être atteints. Il a souligné que cette guerre est la guerre personnelle de Netanyahou et non des citoyens d'Israël. Selon Ehud Olmert, Israël se trouve aujourd'hui devant un dilemme. Accepter le cessez-le-feu pour rendre possible le retour des prisonniers israéliens détenus par le Hamas ou continuer la guerre qui ne réalisera aucun objectif déclaré de Benjamin Netanyahou, à savoir l'anéantissement du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, et la libération des prisonniers israéliens. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en 30 décembre, aujourd'hui 2023, ravi de vous retrouver. Alors on va s'intéresser tout de suite avec nos deux experts qui nous rejoignent depuis Paris et Beyrouth aux dernières évolutions palestiniennes. L'année 2023 était chargée de divers événements tristes, mais ce qui se passe dans la bande de Gaza et qui est toujours en cours est inédit dans l'histoire moderne sur plan du massacre et de l'ampleur du drame. On va s'intéresser sur ce sujet avec nos deux experts tout de suite. Un tout petit reportage, on se retrouve tout de suite après.
La branche militaire du mouvement de résistance palestinien, le Hamas, affirme que l'opération Al-Aqsa a mis le régime d'occupation israélien sur la voie de l'extinction. Les brigades Qassam affirment que les résistants ont porté un coup dur au régime sioniste. Dans un message audio, le porte-parole Abu Obeida a déclaré que les combattants palestiniens ont réalisé une épopée unique en infligeant de lourdes pertes à Israël en plus de 80 jours de combat. Il a déclaré que plus de 825 véhicules militaires israéliens ont été détruits au cours de cette période. Abu Obeida a déclaré que la priorité absolue du Hamas était de mettre fin au génocide perpétré par le régime à Gaza. Il a également souligné qu'il n'y aura pas d'accord sur l'échange de captifs avec Israël tant que son agression ne prendra pas fin. La branche militaire du mouvement de résistance palestinien, le Hamas, affirme que l'opération Al-Aqsa a mis le régime d'occupation israélien sur la voie de l'extinction.
Voilà, retour au plateau. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'accueillir par Skype à distance Maître Eli Hatem, analyste politique, juriste international, qui a accepté gentiment notre invitation. Bonjour Eli Hatem, heureuse de vous retrouver.
Votre invitation.
Un grand bonjour également à Rada Hopalla, universitaire, professeur à l'Université islamique de Beyrouth. Bonjour madame, heureuse de vous retrouver, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous m'entendez, madame Hopalla?
Oui, je vous entends parfaitement.
Merci d'être là, madame Hopalla. On commence tout de suite avec vous, Rada Hopalla. Nous avons porté le coup du siècle au sionisme le 7 octobre. Alors, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du mouvement de la résistance palestinienne, le Hamas. L'opération Tempête d'Al-Aqsa ou bien Déluge d'Al-Aqsa, menée par les mouvements de la résistance palestinienne basés dans la bande de Gaza, assiégée sous un blocus total, avait mis le régime d'occupation sioniste, je cite, en voie d'extinction, selon les mots du porte-parole. Alors, s'agissant des dernières évolutions, qu'est-ce que vous entendez par ces propos du porte-parole du mouvement de la résistance islamique? Qu'est-ce que signifie ce coup du siècle aux sionistes?
Ben oui, en fait, il a bien été, on le sent, au 10e siècle, en anglais, la fin du siècle. C'est-à-dire, la fin du siècle qui a été déclenchée par de la Trump, à travers laquelle il a lancé une campagne de normalisation avec plusieurs États du arabe, notamment du Golfe Persique, mais aussi quand il a transféré, ou il a estimé que Al-Quds était la capitale de l'entité sioniste. Donc, quand justement le porte-parole des brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, affirme que le déluge Al-Aqsa est un coup du ciel, en fait, c'est comme s'il était en train de dire que nous avons porté un coup définitif sur ce qu'on appelle l'affaire du siècle, premièrement. Deuxièmement, alors au niveau des répercussions géopolitiques concernant justement le déluge Al-Aqsa, c'est surtout des répercussions géopolitiques au niveau de la nation juive, puisque le projet essentiel de l'entité sioniste était le grand Grand Haaretz en hébreu, c'est-à-dire Grand Israël, et qui, à travers la première étape, c'est-à-dire créer un État juif, ensuite il fallait que cet État s'élargisse aux dépens, excusez-moi, des États frontaliers, c'est-à-dire du Liban, de la Jordanie, de l'Égypte, pour créer le Grand Israël. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes passés avec le déluge Al-Aqsa de guerre avec les États limitrophes et avec l'entité sioniste, à l'intérieur même de l'entité sioniste, avec les diverses intifadas, de guerre de volonté entre deux États qui sont en train de se disputer un territoire, à une guerre d'identité, dont j'en ai parlé auparavant, c'est-à-dire quand on frappe ce qu'on appelle Tzahal, qui signifie en hébreu l'honneur de la nation juive. D'abord, il n'y a plus de nation juive depuis 2001, puisqu'en 2001, selon le centre de documentation française, dans un bouquet d'articles, à l'époque, Israël était en train de souffrir au niveau de son identité nationale, parce que justement, avec le retrait des forces d'occupation israéliennes en l'an sud, il n'y avait plus question de rester d'un projet israélien. Or, ce qui s'est passé avec des militants, c'est que Tzahal a été frappé, donc c'est le symbole de la nation juive. Il n'est plus question d'avoir non seulement un grand État israélien au niveau du Liban, de l'Égypte, etc., mais en plus, à l'intérieur même, on a transféré le conflit qui était toujours à l'extérieur des frontières de l'entité sioniste, il est devenu à l'intérieur, c'est-à-dire en train de se battre sur le territoire que l'entité sioniste estime qu'il est son territoire. Donc, oui, concernant les répercussions, il n'y a plus de nation juive, il n'y a plus d'identité nationale juive, et il n'y a plus le symbole même de cette nation n'existe plus. Donc, tout ce projet l'extrémisme sioniste tente de sauver est en fait tombé à l'eau. Et donc, là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au niveau de l'opinion publique internationale, dont les lobbies sionistes sont censés pouvoir contrôler les outils, c'est-à-dire les médias, on a constaté que tout le discours qui était propagé par l'establishment militaire et politique israélien et également a été dénoncé par des initiatives privées et parfois collectives de la part de jeunes, ce qu'on appelle les jeunes des réseaux sociaux. Et donc les réseaux sociaux se sont transformés en cinquième pouvoir, je dirais que le quatrième pouvoir étant les médias. Le cinquième pouvoir, c'est vraiment, il y a eu un renversement de la situation au profit de la cause palestinienne. Et vous constaterez par les slogans qui sont en train d'être répétés dans toutes les manifestations, surtout aux États-Unis ou en Europe, on ne parle pas, par exemple, sauver Gaza. On ne dit pas sauver Gaza. On ne parle pas de, par exemple, il faut respecter les droits de l'homme. On est en train de dire un slogan encore plus dangereux, qui est « Free Palestine », « Libérer la Palestine ». Donc, ce n'est plus une question de deux États. L'opinion, le monde entier est en train de parler, c'est-à-dire les peuples sont en train de parler de libérer la Palestine. Donc, ils sont en train de dénoncer complètement, ils ont détruit 75 ans de propagande, de mensonges, de guerre, tout ce que vous voulez, que l'entité sioniste et les États-Unis ont essayé de faire, à savoir d'éradiquer la cause palestinienne, d'étouffer la cause palestinienne, et à travers justement à la fin de cette année, il s'agissait de faire justement, de normaliser, de lancer des campagnes de normalisation. Même les campagnes de normalisation ne sont plus viables. Voilà.
Merci beaucoup, Rada, pour tous ces éclairages. Alors, à vous, Elie Atem, Maître Atem. Je vous le disais, l'année 2023 qui touche bientôt à sa fin était marquée, jalonnée par divers événements tragiques, mais ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est inédit dans l'histoire moderne et relève de l'inacceptable. Alors, notre priorité est de mettre fin à la violence contre la population de Gaza et de mettre fin au génocide dont est victime la population innocente de la bande de Gaza, les femmes et les enfants. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Hamas, l'annonçant comme sa priorité. Je vous laisse réagir à ces déclarations du porte-parole du Hamas également au propos de Madame Hopalla. Elie Atem, je ne vous entends pas.
Maintenant, voilà. C'est mieux?
Voilà, oui, parfaitement mieux. Je vous laisse réagir.
Merci. Absolument. Voilà, merci. Je vais répondre à votre question, mais... si vous voulez, je vais faire trois remarques. Et je pense qu'à partir de ces trois remarques, ou en exposant ces trois remarques, il y a amplement une réponse à votre question. La première, c'est en ce qui concerne le nom de l'opération qui a eu lieu le 7 octobre. Alors, le nom, comme vous avez dit, c'est très difficile de le traduire en français. Vous avez hésité entre tempête d'Al-Aqsa ou bien déluge Al-Aqsa. Et en fait, le terme en arabe, c'est « tawafan al-Aqsa ». Et « tawafan » veut dire, il y a deux significations. Il y a une signification qui est, je dirais, climatique. Autrement dit, ça peut être un déluge ou une tempête, mais il y a une autre signification en arabe qui veut dire un ras-le-bol. Le ras-le-bol, c'est la petite goutte d'eau qui a débordé du vase. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des provocations répétitives de la part des forces militaires de l'entité sioniste à l'encontre de la population palestinienne. Il y a eu des exactions qui ont été entreprises depuis je dirais même 1947 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu, comme vous le savez, déclaration 1948 de l'État d'Israël, la guerre de 1967, et puis il y a les différentes attaques, et puis surtout après... C'est que la résistance palestinienne, qui était composée par plusieurs groupes, le FPLP, le Fatah et puis d'autres organisations, ont renoncé à partir d'Oslo à la résistance armée. Et puis, ils ont accepté de donner une partie du territoire palestinien à cette entité artificielle. Et quand je parle entité artificielle, c'est là ma deuxième remarque, et c'est là où je ne suis pas d'accord, si je me permets, avec Rada, ou quand elle dit que la nation juive, il n'y a jamais eu de nation juive. Il y a eu une construction artificielle d'une société, je dirais.
Excusez-moi, je vous interromps, je n'ai pas dit qu'il y avait une nation juive, c'était que dans la représentation politique israélienne, ils cherchent à construire une nation juive. Si vous voulez. Quels sont les arguments, excusez-moi, théologiques et géopolitiques qui ont été exprimés par différents responsables israéliens et par des philosophes et par des sociologues israéliens? Vous remarquerez qu'il y a des arguments dans lesquels ils disent que dans la carte justement du Grand Eretz, c'est pour eux une nation juive. Je n'ai pas dit qu'ils ont construit, j'ai dit qu'ils cherchaient, c'était la seconde étape.
À la construction,
à travers l'invasion israélienne en 1982, ce qui n'a pas été réussi. Et Sharon, quand il est arrivé sur les portails de Beyrouth, il l'a bien dit. Là, nous sommes proches de réaliser la nation juive. Je n'ai pas dit ce que vous êtes en train de dire. Excusez-moi, soyez plus précis.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que je vous entendais mal. J'ai entendu, donc c'était assuré. C'est pour ça.
Il y a un problème du son, exactement, oui. Continuez, s'il vous plaît, maître.
Très important à ce que vous venez de dire, il y a le livre de Shlomo Sand, et pas le seul d'ailleurs, il y a plusieurs ouvrages, il y a plusieurs études qui affirment que cette notion de nation juive n'existe pas. Il n'y a pas un peuple juif. Il y a des communautés religieuses de différentes, d'ailleurs, tendances. Et là, je ne veux pas entrer dans les explications donc, théologiques et communautaires, mais on ne peut pas, si vous voulez, avoir un seul peuple avec une seule culture, avec une seule civilisation. C'est que toute cette construction est totalement artificielle depuis les amours de Sion jusqu'à l'organisation du sionisme mondial. Parce qu'il faut rappeler une chose, que le judaïsme politique existe avant même l'organisation sioniste mondiale, depuis les amants de Sion, avec cette idée de créer artificiellement une nation ou un peuple. Or, le judaïsme, pour la plupart, y compris même pour Ernest Renan en France, c'est plus une religion qu'un peuple, et donc ne peut pas se faire prévaloir donc, d'une nation. C'est cette idéologie, si vous voulez, ultra-nationaliste qui a tenté, comme vous l'avez très bien expliqué, et donc excusez-moi, je vous ai mal entendu au départ, c'est que on a créé, on a imposé un État, surtout en profitant de ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, parce que sans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, aucune nation, aucun État dans le monde n'aurait accepté la création d'un État sur le territoire d'un autre État avec le grand mensonge, un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Alors, ce qui est tout à fait...
Vous avez bien ciblé votre réponse, je suis tout à fait d'accord concernant...
Pardon, j'ai mal entendu.
C'était un argument tout à fait caduque, quoi, pour moi, voilà.
C'est un argument, comment ?
Vous pouvez vous ralentir un petit peu, cher Rada, parce qu'on vous entend un peu mal. Il y a un souci du son. Vous m'entendez, Madame Obala ?
J'étais en train. Je suis tout à fait d'accord avec votre invité quand il a bien fait de rappeler justement que les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale étaient un prétexte pour lancer le slogan « Un peuple sans territoire, un territoire sans peuple ». Et là, je laisse la parole à votre invité. Excusez-moi de vous interrompre encore une fois.
Merci.
Non, vous savez, donc, il y a donc, le fameux auteur Finkelstein aux États-Unis qui a parlé d'ailleurs du commerce de l'Holocauste. Vous savez, c'est un livre, c'est un Américain de confession, de religion juive, qui a fait cet ouvrage. Et en plus, ses parents ou ses grands-parents sont morts par les massacres qui ont eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale en raison de leur appartenance à la religion juive. Donc, ce n'est pas moi. En fait, ce sont des chercheurs, des universitaires. Il est universitaire à l'Université de New York qui a souligné cet élément. Donc, aujourd'hui, il y a comme... Vous l'avez expliqué, c'est qu'il y a une société qui est composée de différents groupes qui sont complètement hétérogènes. Vous avez non seulement les séfarades et les ashkénazes et les mesraïs et les falachas, mais à l'intérieur donc même des séfarades, vous avez des tendances culturelles complètement différentes. Chez les ashkénazes aussi, et puis il y a ces différents groupes, ces différents partis politiques, donc il n'y a pas de cohésion nationale. Donc quand les Israéliens parlent d'une nation israélienne, il n'existe pas de nation israélienne, et il y a eu une crainte, une dislocation totale de cette société artificielle. Nous avons assisté d'ailleurs à un mouvement de la part des Falachas à l'encontre de l'État, des institutions donc étatiques de cette entité artificielle, je répète encore une fois, et par la suite, il y a eu quand même tout un mouvement de protestation contre le régime de Netanyahou et des gens donc qui ont composé avec lui un gouvernement au sein de cette entité, encore une fois artificielle, et qui a bénéficié d'une reconnaissance, et je dirais exagérée, parce que la reconnaissance, comme vous le savez, ce n'est pas un acte juridique, c'est un acte de pure, je dirais, opportunité politique, et qui d'ailleurs, aujourd'hui, peut être remise en cause en raison des actes de violence de la part de cette entité. Et d'ailleurs, les pays arabes doivent s'en inspirer de la résolution des Nations Unies qui indique qu'on ne peut pas reconnaître un État qui exerce des actes de violence. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a des crimes contre l'humanité qui sont exercés par cette entité qui ne peut pas se faire prévaloir de la qualité d'État. Donc, voilà la deuxième remarque en ce qui concerne la société de cette entité sioniste totalement artificielle qui est en train de se disloquer. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, Netanyahou a profité donc de cette situation pour mener ce projet politique qui est lequel, qui est la déportation de ce qui reste des Palestiniens. Et pour provoquer la déportation, il faut provoquer des événements qui font peur pour terroriser la population. Et donc, aujourd'hui, cette entité sioniste doit être considérée comme étant une entité terroriste. Parce que, encore une fois, d'un point de vue juridique, et moi je suis avocat, donc je parle en notion de droit, c'est qu'il n'y a pas de définition jusqu'aujourd'hui du terme terrorisme. Donc c'est une expression qui est attribuée à des groupes, les uns comme pour les autres. Vous savez, quand il y a eu la résistance en France à l'encontre de l'occupant allemand, le général de Gaulle et la résistance française contre l'ennemi, contre l'occupant, étaient considérés par l'occupant et par ses alliés comme étant des actes de terrorisme. Et aujourd'hui, sur le terrain, il faut voir, c'est qu'il y a une disproportion entre les actes de résistance nationale et peut-être des actes collatéraux qui peuvent être peut-être condamnés de la part de la résistance palestinienne. Et d'autre part, vous avez des actes atroces, beaucoup plus importants et disproportionnés par rapport aux actes de la résistance palestinienne et qui sont condamnables et qui sont qualifiables d'actes de terrorisme, plus des actes de terrorisme, des actes de crimes contre l'humanité et non seulement des crimes de guerre, parce qu'il faut distinguer entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
Merci.
Et dernière remarque, c'est que aujourd'hui, il faut comprendre la résistance palestinienne. Tout a été essayé pour régler le conflit. C'est comme si quelqu'un vient chez vous, il vous occupe votre appartement, vous lui donnez la moitié de votre appartement et il veut vous chasser. Et puis personne ne vous aide. Les voisins ne vous aident et personne ne vous aide, ni la justice, ni la police. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos bras pour le mettre de force dehors. Et c'est ce qui se passe actuellement sur le terrain en Palestine.
Merci Ali Hatem. Peut-être dernière question qu'on va poser avec Rada Oballa. Alors l'occupation israélienne est un régime usurpateur, un régime d'apartheid qui avance pourtant des revendications illégitimes au nom de soi-disant autodéfense face aux Palestiniens. Alors que ce n'est pas le Hamas qui a lancé, c'est pas moi qui le dis, ce sont des commentateurs et des analystes, des hommes politiques, des élites politiques qui a lancé cette guerre. C'est Israël qui a déclenché cette guerre. Il y a pas mal de raisons pour cette thèse. Alors, l'existence de plus de 6 000 détenus palestiniens, dont des centaines de femmes et des enfants, avec des procès sans jugement, sans avocat, beaucoup de femmes et enfants parmi les prisonniers, l'intensification des offenses faites par les sionistes à la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa, poursuite du blocus inhumain de la bande de Gaza depuis 2007... Répression sanglante et vive de Palestiniens en Cisjordanie occupée. Alors, un projet imminent de Netanyahou pour loger des milliers, des millions de Juifs avec l'expansion de colonies dans les territoires occupés et également le projet de la normalisation avec certains pays musulmans. Alors, je vous laisse réagir. Nous n'avons que quelques minutes devant nous.
Sur quoi je vais réagir? Vous avez tout dit.
Oui, ça, c'était vraiment important.
Oui, mais là, vous avez tout dit. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je... Je n'ai pas compris votre
dernier
question.
Dernier mot, peut-être, pour conclure notre émission.
Dernier mot, c'est que tout simplement, l'entité sioniste, de toute façon, de manière, en termes géopolitiques, le projet de l'entité sioniste est tombé à l'eau. Certes, au niveau stratégique, militaire, aucun objectif militaire n'a été réalisé par l'establishment militaire politique israélien, c'est-à-dire éradiquer le Hamas. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Olmert a déclaré il y a deux jours exactement que le fait d'éradiquer Hamas est non seulement une question difficile, mais quasi impossible. Donc, la majorité des anciens responsables israéliens, c'est-à-dire ceux qui occupaient des postes ministériels, confirme ce que tous les observateurs disent, c'est que tous les objectifs que le cabinet de guerre a déclaré et déclare encore pouvoir réaliser sont irréalisables. Il n'y a que des destructions, il y a des violations en termes de droit international humanitaire et en termes de droit international public. Et là, maintenant, il y a, je viens de donner quelque chose de très important, c'est que même si l'entité sioniste n'a pas signé ni ratifié le statut de la CIJ, donc on ne peut pas la tirer dans ce guépier juridique, mais par contre, il y a des États qui n'hésitent pas à proposer une recommandation à la CIJ dénonçant les crimes de guerre de l'entité sioniste, ce qu'a fait aujourd'hui l'Afrique du Sud. Voilà.
Merci Rada Obala, merci également à Elie Hatem d'avoir participé à ce court débat. Amis téléspectateurs, merci de votre fidélité. Au revoir.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'Afrique économie pour ce dimanche, ce dernier dimanche de 2023, depuis la capitale iranienne, Téhéran. Dans cette édition de l'Afrique économie, nous allons passer en revue les informations et l'actualité économique la plus importante du continent africain. Restez avec nous. Mine de demain vers une hausse de la production ouest-africaine d'or en 2024. En 2023, l'or a continué à s'échanger à un niveau élevé, terminant l'année avec un gain de plus de 13% par rapport à fin 2022. C'est dans cet environnement favorable que plusieurs nouvelles mines d'or sont entrées en service sur le continent, alors que d'autres projets devraient les rejoindre en 2024. La rédaction de l'agence Ecofin vous propose de découvrir ces projets dans cette première partie d'un diptyque consacré aux nouvelles mines africaines en 10 ans. La production d'or en Côte d'Ivoire a été plus que triplée, passant d'environ 13 tonnes en 2012 à 48 tonnes en 2022. Le pays a poursuivi sur cette dynamique cette année avec l'entrée en production de plusieurs mines d'or et vise une production de 50 tonnes. En 2024, la mine d'or Lafigué devrait s'ajouter à cette longue liste selon son propriétaire Ndéavor. Située à environ 500 km d'Abidjan par la route, dans le centre nord de la Côte d'Ivoire, la future mine Lafigué devrait livrer son premier lingot d'or au troisième trimestre 2024. Au Nigeria, le régulateur de la concurrence confirme l'engagement de BAT à payer 110 millions de dollars d'amende. L'information qui alimente plusieurs médias avait déjà été donnée par BAT, citant un accord signé avec le régulateur depuis décembre 2022. On ignore cependant si les faits reprochés ont été corrigés. Des informations rapportées par de nombreux médias nigérians et internationaux annoncent que le groupe British American Tobacco paiera 110 millions de dollars d'amende imposée à ses filiales au Nigeria par la Commission fédérale locale. En charge de la concurrence et la protection des consommateurs, il était reproché à ces entreprises d'avoir violé les règles de la concurrence et celles relatives à la protection de la santé publique. Si c'est la première fois qu'elle est rendue, l'information avait déjà été donnée dans le rapport financier de l'entreprise en mars 2023. Elle annonçait en fait que parmi ses dépenses d'exploitation, elle prenait en compte un montant de 79 millions de livres sterling à la suite d'un accord trouvé en décembre avec le régulateur nigérian pour cesser des investigations débutées quelques années plus tôt. En Afrique subsaharienne, les envois de fonds des migrants devraient augmenter de 1,9% en 2023 à 54 milliards de dollars. La Banque mondiale estime que le rythme des envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne devrait s'améliorer en 2024 pour atteindre 2,5%. Les envois de fonds des migrants vers les pays d'Afrique subsaharienne devraient augmenter de 1,9% en 2023 pour s'établir à 54 milliards de dollars. Selon le rapport de la Banque mondiale sur les migrations, et le développement publié le lundi 18 décembre 2023, la baisse du rythme de croissance des envois de fonds observés en 2023 par rapport à 2022 s'explique essentiellement par le ralentissement de l'activité économique dans les pays d'origine de ces fonds, qui a limité les possibilités d'emploi et de progression salariale chez les travailleurs migrants. La hausse modérée des transferts d'argent par les migrants africains vers leur pays d'origine découle en grande partie de la forte croissance des envois de fonds vers le Mozambique, le Rwanda et l'Éthiopie. Au Rwanda, BioNTech prévoit d'entamer la production de vaccins à ARN messager en 2025. L'unité de production qui sera capable de fabriquer n'importe quel type de vaccin à ARN messager devrait contribuer à réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des vaccins importés. Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé dans un communiqué publié le lundi 18 décembre 2023 qu'il prévoit d'entamer la production de vaccins à ARN messager dans son usine rwandaise en 2025. Les premières unités modulaires de l'usine qui sont arrivées au Rwanda en mars dernier ont été déjà assemblées, a-t-on précisé de même source. Baptisées Biontainers, ces unités mobiles réalisées grâce à des conteneurs recyclés sont les éléments essentiels de l'unité de production de vaccins. L'Afrique disposera de l'une des installations de fabrication de vaccins les plus avancées au monde. Ces Biontainers seront capables de fabriquer n'importe quel type de vaccin, ARN messager, a déclaré Uğur Şahin, cofondateur et directeur général de BioNTech, lors de l'inauguration de l'usine à Kigali en présence du président rwandais, Paul Kagame et d'autres autorités africaines. Wasoko et Maxabé entament un processus de fusion pour demander naissance à un géant du e-commerce en Afrique. La nouvelle société qui devrait être issue de la fusion disposera d'une base de clients inégalée de plus de 450 000 commerçants, servant collectivement une population de plus de 460 millions de personnes. La start-up kenyane Wasoko a annoncé le 22 décembre avoir entamé un processus de fusion avec son homologue égyptienne, Maxabé, en vue de donner naissance à un champion du commerce électronique en Afrique. Je suis ravi d'annoncer la signature des conditions préliminaires de fusion de Wasoko et de Maxabé en vue de lancer la plus grande fusion technologique que l'Afrique ait jamais connue, a déclaré Daniel Lou, le fondateur de la jeune pousse basée au Kenya. Selon lui, la société qui devrait être issue de la fusion disposera d'une base de clients inégalée de plus de 450 000 commerçants, servant collectivement une population de plus de 460 millions de personnes. Les détails de l'opération n'ont pas été encore divulgués. Wasoko et Maxabé opèrent sur le marché naissant du commerce électronique en Afrique. NCA Bank CI consent à près de 8,4 millions de dollars au profit de PME avec 30% des fonds dirigés vers des femmes. La banque ivoirienne fondée par Jean Kassou Diagou a conclu avec le GUDE PME, une entité gouvernementale, un prêt et un accord visant à financer des entreprises du secteur privé. Le dit accord ciblera particulièrement des PME locales dirigées par des femmes et des jeunes. NSIA Bank CI, filiale bancaire du groupe NSIA, a procédé le mercredi 27 décembre 2023 à la signature d'une convention visant à soutenir l'entrepreneuriat ivoirien. Cette convention, qui se décline sous la forme d'une ligne de financement d'un montant de 5 milliards de francs CFA, a été conclue avec le guichet unique de développement des PME. Il s'agit d'un opérateur public ivoirien dédié au financement et à l'accompagnement des entreprises, principalement des PME. À travers cette ligne de financement, la banque, appartenant à l'homme d'affaires ivoirien Jean Kassou Diagou, mettra en place un mécanisme visant à faciliter l'accès au financement au profit d'entrepreneurs, de très petites entreprises, de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire.